Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bienvenue Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver effectivement chaque semaine.
Je suis en superbe forme grâce à nos auditeurs. Ils envoient régulièrement des messages très sympathiques sur la page Facebook et nous vous en remercions, chers auditeurs. Démission de magistrats, soupçons de manipulation politique dans le dossier judiciaire de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Après la controverse affaire Karim Wade, au Sénégal, le pouvoir judiciaire est manifestement à couteau tiré avec l'exécutif. Un des avocats de Khalifa Sall, condamné à 5 ans de prison, affirme même qu'elle est devenue, je cite, le bras armé de l'exécutif. Le divorce est-il consommé entre les deux parties? Analyse à suivre. Winnie Madikizela Mandela est morte, la combattante pour l'égalité raciale en Afrique du Sud pendant les années sombres de la ségrégation, est décédée cette semaine à 81 ans. Avant son inhumation samedi prochain 14 avril, un hommage national lui sera rendu. Mais tout cela suffira-t-il à taire certaines critiques selon lesquelles son parti, l'ANC, ne lui a pas donné de son vivant la place qui était réellement la sienne? On verra ce qu'en pense notre invité. Les prochaines semaines devraient être plus apaisées en Guinée après l'annonce de la suspension des manifestations par le chef de file de l'opposition, Seydou Alain Diallo, et ce à l'issue de sa rencontre lundi avec le président Alpha Condé. Ce dernier a pris des engagements visant à donner suite à la contestation par l'opposition des résultats des élections communales du 4 février dernier. Ces promesses seront-elles tenues? Certains en doutent, rappelant que l'accord signé en septembre 2016 lors d'un autre tête-à-tête entre les deux hommes n'a pas été respecté. Commentaires et décryptage, c'est tout à l'heure, mais d'abord la présentation du plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, notre grand témoin invité, il est avec vous à Dakar, dans vos studios, Liliane, à Bibsi, président du parti Espoir et Modernité, le PEM, ancien ministre d'État. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Francis.
Oui, vous avez occupé plusieurs postes ministériels successifs sous la présidence du président Abdoulaye Wade. En avril 2004, vous avez été nommé ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique. Ensuite, en février
2002.
C'était en 2002, d'accord. Vous avez été successivement ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Ensuite, ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement, des Transports terrestres et Transports maritimes intérieurs. Et un peu plus tard, ministre d'État, ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles. Vous dirigez donc actuellement, vous présidez ce parti, le parti Espoir et Modernité. Parti inscrit dans l'opposition, monsieur le ministre.
Vous avez sauté, je suis le dernier directeur de cabinet du président Blair.
J'allais le dire, vous l'êtes d'ailleurs, on a conservé évidemment ce poste pour la bonne bouche, si je puis dire. Vous avez été le dernier directeur de cabinet de l'ancien président Abdoulaye Wade.
Je le suis deux fois d'ailleurs, quand j'ai été ministre dans le gouvernement élargi du président Abdou Diouf, j'étais son directeur de cabinet aussi.
Ah ben voilà, en tout cas vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. À vous Liliane.
Oui, Francis, merci. Le magistrat sénégalais Ibrahima Amido Dem a démissionné récemment en déclarant que la justice de son pays est fragilisée et malmenée à l'intérieur comme de l'extérieur. Selon lui, la justice sénégalaise est aux ordres et a perdu sa crédibilité. C'est ce que soutiennent aussi les avocats de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Ils affirment que la justice a été instrumentalisée et utilisée à des fins politiques dans le dossier concernant leur client, qui a d'ailleurs été condamné à 5 ans de prison ferme et a payé 5 millions de francs CFA d'amende. Il a été condamné notamment pour escroquerie au denier public, faux et usage de faux dans des documents administratifs et de complicité en faux en écriture de commerce. Monsieur le ministre Habib, si vous avez été très très actif dans ce dossier, à un moment vous avez été même appelé comme témoin, finalement vous ne témoignerez pas dans le dossier Khalifa Sall. Est-ce que finalement avec la condamnation, avec la non-culpabilité de Khalifa Sall concernant le détournement de deniers publics, vous vous dites quand même que finalement la condamnation à un faux, écriture de faux, répond aux faits.
Je voudrais d'abord, madame, expliquer pourquoi je n'ai pas témoigné au procès de Khalifa Sall. J'ai été cité par la mairie de Dakar, qui s'était conseillée partie civile. Je suis rendu au tribunal. Mais le juge a estimé que parmi les témoins cités par la défense. Il y figurait des personnes qui répondaient aux mêmes critères et pour les mêmes raisons que moi et d'autres. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu que je témoigne. Je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir. Le professeur Khalifa Sall, la démission du magistrat Ibrahim Adem, à mon avis, tout cela participe à un système de démocratie qui n'est pas mûr, qui n'est pas bien assis et qui est en train même, pour ceux qui en étaient déjà construits, qui est en train de s'affaisser. Parce que dans un vrai système de démocratie, dans un système de vraie démocratie qui stipule une séparation des pouvoirs, les décisions de justice ne peuvent pas et ne doivent pas faire l'objet de doutes et de contestations par l'opinion publique.
Mais par principe, une décision judiciaire est toujours contestée par l'une ou l'autre partie, selon qu'on soit supporter ou opposant de l'un ou l'autre accusé, non ?
Ce n'est pas toujours par principe, madame, parce que quand c'est des pouvoirs qui sont séparés réellement, et qu'on sache, parce que ce qui est dangereux, quand on dit que la justice...
Mais on a rarement vu des cas de condamnation d'hommes politiques qui...
Oui, mais quand il arrive...
Des verdicts qui fait l'unanimité.
Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais des contestations de cette nature, parce que moi j'étais à l'audience au moment où le juge rendait sa décision. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal, peut-être même de l'Afrique et du monde, qu'on voit un juge qui rend une décision... Et le public se lève, se ruer contre le juge. Et si le pouvoir, si le juge, la justice est rendue au nom du peuple, n'est-ce pas? Des choses de cette nature, même si on conteste, ne doivent pas et ne peuvent pas se produire.
Je vous le savais, Francis, tout à l'heure, mais la salle était remplie de partisans de
oui,
Khalifa
oui,
Sall.
Oui,
c'est une réaction normale.
Je vais vous expliquer, parce qu'il y a tout un processus, madame. D'abord, pourquoi on a arrêté Khalifa Sall? Lui, il dit qu'il gère,
des fonds politiques.
Les autres, ils disent que c'est une caisse d'avance. Mais il faudrait savoir que ce qu'on appelle caisse d'avance pour Khalifa Sall, c'est quoi? C'est un instrument budgétaire qui est mis à la disposition de la mairie au service d'une fin. La fin, c'est quoi? Pour des fins politiques. Au même titre, madame, que les fonds dont dispose le président de la République, les mêmes fonds dont dispose le président de l'Assemblée nationale, les mêmes fonds dont dispose le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Alors, quand des problèmes de cette nature se posent, parce qu'à mon avis, il n'y a que trois personnalités qui bénéficient du suffrage universel. C'est le président de la République, quand le peuple n'en veut pas, il le débarque. C'est le président de l'Assemblée nationale, etc. Et quand ils ont, eux, la possibilité de gérer des fonds, qu'on appelle des fonds spéciaux, le maire, particulièrement le maire de Dakar, devrait avoir la même possibilité. C'est ça la pratique qui
Merci.
A existé depuis des années.
Francis,
alors,
mentionné,
oui,
Francis, vous je vous
alors,
laisse la main.
Donc,
que ce n'est pas pour détournement qu'il a été condamné. Il faut bien
Oui, je sais, il parle d'escroquerie.
Pour ce fait, il a été blanchi.
Oui, Francis, je sais, j'étais là-bas, j'ai rendu, j'ai suivi tous les arguments qui ont été développés par le juge. Vous comprenez? Moi, j'explique. Pourquoi ces fonds ont été alloués à Khalifa Sall? Autant les fonds qui sont destinés au président de la République ne font l'objet de contrôle parce que c'est à des fins politiques, autant les fonds qui sont destinés à Khalifa Sall, à notre avis, devraient aussi avoir les mêmes justificatifs.
Merci.
C'est très simple de dire qu'il s'agit tout simplement d'escroquerie alors que c'est l'argent de la mairie. On ne peut pas s'escroquer soi-même.
Merci.
Vous comprenez?
Et
c'est ça le...
Oui. Je voulais une précision, Abibsi. Il y a quelques instants, vous disiez que tout cela, évidemment, révèle l'absence de maturité de la démocratie sénégalaise. Vous avez dit une démocratie pas mûre, pas assise, hein, je vous cite. Alors que votre pays s'enorgueillit depuis plusieurs années d'être l'un des pionniers de la démocratie sur le continent, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné affaissement de la démocratie? Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie sénégalaise?
Les menaces, c'est des menaces de cette nature. Quand l'opinion publique, on dit que la justice est un pouvoir. Ici au Sénégal, contrairement en France, on dit que c'est une autorité. Mais le pouvoir, ça provient d'où? Du peuple sénégalais. Si le peuple a le sentiment que cette justice qui est rendue n'est pas une justice juste, que le bon droit n'est pas dit, oui. ça participe à l'affaissement de la démocratie.
Vous avez été
si,
plusieurs...
Encore, Francis,
oui, Habib,
si le peuple Habib. Sénégalais, oui. ou bien une bonne partie de la frange de l'opinion publique, estime que la justice fait l'objet d'une instrumentalisation du pouvoir judiciaire, c'est un affaissement de la démocratie. Et c'est ça qui se pose actuellement au Sénégal. Ce n'est pas tout simplement le cas de Khalifa Sall. Cette même perception que le peuple a eue sur le professeur Khalifa Sall, il l'a eue sur le procès Karim Wade. Cette même perception d'injustice aussi, le peuple l'a eue à l'égard de responsables du pouvoir actuel qui ont été épinglés par les organes de contrôle de l'État et qui ne font l'objet d'aucune poursuite. Cette même perception, le peuple aussi l'a eue à l'égard de personnalités qui faisaient partie de notre régime, qui ont fait ce qu'on appelle la transhumance, qui ont été épinglés par des organes de contrôle de l'État et qui ne font aucune poursuite. Et c'est ça qui est dangereux pour un État. Et c'est ça qui est dangereux aussi pour l'évolution de la démocratie. Il faudrait que ça s'arrête parce que la justice est le pilier de la démocratie. S'il y a un sentiment d'injustice au niveau de l'opinion publique, tout le reste, ça s'affaisse. C'est facile pour le pouvoir
quels
exécutif.
Quels sont précisément les acteurs de cet affaissement? Parce que vous avez été plusieurs fois ministre sous la présidence d'Abdoulaye Wade, on le disait. À vous écouter, il y a eu manifestement un recul de la démocratie depuis l'installation de l'actuel pouvoir. Que s'est-il passé? Qui sont aujourd'hui les acteurs précisément de cet affaissement de la démocratie sénégalaise?
Mais un acteur principal, c'est Macky Sall. Il ne faut pas chercher midi à 14h.
Vous voulez dire
il faut
que Macky Sall instrumentalise la justice?
C'est évident. C'est évident, c'est Macky Sall qui instrumentalise la justice.
Si c'est vrai, quels sont les moyens dont vous disposez en tant qu'acteur politique pour rectifier en quelque sorte, en tout cas pour apporter une solution à ce que d'ailleurs Ibrahim Hamidou Dem, le magistrat démissionnaire, a appelé une grave crise morale qui frappe votre pays?
Ben, les solutions, il y en a plusieurs. Mais moi, en tant qu'homme politique, j'ai fait une réponse politique. La réponse politique pour remettre la démocratie sur les rails, c'est qu'il faudrait, je l'ai dit d'ailleurs, que les partis d'opposition puissent se retrouver, définir une stratégie, faire face au pouvoir, gagner l'élection présidentielle de 2019 et redresser les choses. J'ai même proposé à ce que l'opposition se retrouve autour d'un pacte populaire pour battre Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019.
Vous voulez dire tout sauf une coalition, tout sauf Macky, comme il y en a eu au second tour contre l'ancien président Wade?
Non, ça peut être subjectif. Vous comprenez, nous particulièrement, c'est sur des faits précis. Quand je dis qu'il faut un pacte populaire pour l'opposition, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce pacte contienne un minimum de programmes de points programmatiques. Il faudrait que, même pour l'exercice du pouvoir, qu'on puisse avoir un partage de responsabilités et qu'on inclue même, s'il le faut, un certain nombre de valeurs démocratiques qui aujourd'hui sont en déperdition dans notre pays, le Sénégal. Si on le fait, Macky Sall ne pourra pas résister parce qu'on l'a vu aux élections législatives. Son parti a beaucoup régressé. Il est à 49% de l'électorat. Encore que tous les Sénégalais électeurs n'ont pas disposé de leur carte d'électeur. Tous les Sénégalais qui devaient voter n'ont pas voté.
Mais toujours que la coalition au pouvoir a remporté.
Oui, il a remporté.
Benno Mbokh-Yakaar a remporté le scrutin.
Oui, il a remporté le scrutin, madame. Mais si vous faites la somme, n'est-ce pas, de tous les partis d'opposition qui ont participé à l'élection présidentielle, ils sont au-dessus de Benno Mbokh-Yakaar. Il s'y ajoute qu'il y a 2 millions de Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Et on suppose que ces 2 millions de Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, ça a été fait sciemment par le pouvoir. Cartes sont distribuées,
Est
presque évident que 80% de ces électeurs vont appartenir à l'opposition et vont voter pour l'opposition.
D'accord. Revenons à la question de Francis, précisément la solution pour réparer en quelque sorte la justice, réconcilier la justice sénégalaise avec les populations, puisque vous dites qu'il y a une rupture.
Moi, madame, je vais vous dire, dans notre projet de société, notre parti, on propose, par exemple, que si on arrive au pouvoir...
Le parti Espoir et Modernité.
Oui, si on arrive au pouvoir, La première chose qu'il faut faire, c'est des réformes institutionnelles. Et la première institution à réformer, c'est la justice. En faisant quoi? Il faudrait que les magistrats fassent l'objet d'une élection par leur pair et que le président de la République sorte du Haut Conseil de la magistrature. Mmh. Et parmi ces juges, les hautes juridictions, conseil constitutionnel, conseil d'État, cour suprême, etc., les présidents doivent faire l'objet d'une élection par leur pair. Et le juge le plus âgé, le plus gradé, va assurer la présidence du conseil supérieur de la magistrature.
Donc, si j'ai bien compris, ce qui était bon sous le régime Ouad ne l'est plus aujourd'hui.
Oui, c'est ça, parce que finalement, le système, il pourrait fonctionner si les hommes étaient vertueux.
Oui, vous savez, la démocratie, c'est dynamique, c'est comme développement.
Oui.
Il n'est pas dit qu'on l'a pratiqué sur Ouad que tout était parfait. Vous comprenez? Il y avait eu des contestations.
Il y a aussi des procès politiques sur Ouad, qualifiés de politiques.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais avec le président Ouad en Espagne, invité à dîner par le premier ministre d'Espagne. Il y avait des membres anciennement de partis d'opposition qui étaient dans la délégation. Le président Ouad, il dit au premier ministre, vous voyez tous ces gens-là, il indique, je ne veux pas citer leur nom, il dit, je pouvais les mettre en prison parce que ils ont fait l'objet d'audits, ils ont fauté. Mais je ne le fais pas. Vous savez pourquoi? Il dit, j'ai choisi la voie la plus difficile. C'est la voie de la démocratie. Il faut apprendre aux gens comment on fonctionne. En Afrique, le grand problème...
La démocratie, ce n'est pas non plus la promotion de l'impunité, monsieur le ministre.
Oui, non. C'est-à-dire que c'était pour dire tout simplement que des fois, les hommes au pouvoir en Afrique s'arc-boutent au pouvoir et même sont prêts à faire basculer leur pays dans la violence parce qu'ils doutent de ce qui va advenir pour eux demain. Mmh. C'est-à-dire qu'il arrive des moments, quand un pays est en crise dans une situation de cette nature, il faut savoir passer l'éponge, n'est-ce pas? Faire passer l'éponge pour pouvoir évoluer. Mais il faut que ça soit dans un système de bonne démocratie.
Donc, attendez, vous dites que sous Ouad, il protégeait les corrompus présumés et que Macky Sall aurait dû choisir la même stratégie en n'arrêtant pas les personnes ou les dirigeants soupçonnés de détournement de fonds publics.
Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, parce que le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il a dit lui aussi? Il dit, il y a beaucoup de dossiers, j'ai mis le coude dessus. Mais le président Ouad, il n'a poursuivi personne. Il n'a poursuivi personne pour des raisons politiques. Il voulait faire apprendre, et les dégâts qu'il avait commis, était d'ailleurs moindre que les dégâts qui sont commis sous le régime de Macky Sall.
Ça, ce sont des affirmations.
Mais je le sais parce que j'étais au cœur de l'État. Je sais aussi ce qu'ils font.
D'accord.
Alors, vous comprenez? Alors, je disais tout à l'heure, mais si on dit indépendance de la justice, je parle d'élection, mais on parle de pouvoir. Si la justice est un pouvoir, ici, le pouvoir exécutif, il est contrôlé par le peuple. Le pouvoir législatif est contrôlé par le peuple, par le biais des élections. Mais le juge qui le contrôle, personne. C'est pour cela que nous, dans notre proposition, on dit même qu'il faut qu'il y ait un organe extrajudiciaire pour veiller sur la probité des magistrats qui pourraient être constitués par des professeurs de droit, des journalistes...
Des personnalités indépendantes,
etc. Pour veiller sur la probité des magistrats, parce qu'ils seront en quelque sorte des représentants du peuple. Pour éviter à ce qu'il y ait le pouvoir des juges. Et je crois que si on procède de cette manière, progressivement, on pourrait arriver à une indépendance de la justice et par conséquent à une démocratie stable, pérenne et durable.
On marque une pause et on poursuit le débat juste après.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité à BBC, président du parti Espoir et Modernité, PEM, ancien ministre d'État du Sénégal.
Il faut parler Wolof, il y a Karouréoumi, il faut ajouter la...
Je vous confie...
Parti de l'Espoir et de la Modernité, il y a Karouréoumi, c'est l'espoir du pays.
Mais à chaque fois, je vous laisserai dire ça, monsieur le ministre, comme ça, ce serait beaucoup plus pur. Ça, je vais respecter, je veux dire, l'authenticité du Wolof avec vous. Merci beaucoup, on reprend le débat. Donc, monsieur le ministre, quels sont aujourd'hui vos rapports avec le PDS?
Ben, j'ai quitté le PDS, mais je n'ai pas quitté Ouad, qui est mon maître à penser. Hein.
Oui.
Moi, je dis, on va dire pur et dur. N'est-ce pas? Je suis un wadiste, je suis le plus grand théoricien même du wadisme. Mais j'ai eu des problèmes avec la direction du parti. Bon, mais j'ai estimé que je devais quitter pour continuer les idées et la pensée de Wad dans un autre cadre.
Quel est votre regard aujourd'hui, je dirais, sur le fonctionnement même du PDS, du Parti démocratique sénégalais, le parti de l'ancien président?
Je me garderai de les juger. Ce sont des amis, des frères, etc. Bon, j'aurais souhaité qu'on revienne tous au pouvoir. On verra ce qui reviendra en 2019.
Une bonne partie du PDS considère que Karim Wad serait le candidat naturel du PDS à la prochaine élection présidentielle en 2019. Est-ce que vous partagez ce sentiment, indépendamment du fait que vous ayez votre propre parti et que vous concevez cette distance avec le PDS?
Vous savez, moi-même, j'étais candidat au même titre que Karim pendant les investitures. J'ai désisté à son profit. Vous voyez, donc je ne peux pas contester qu'il soit le candidat du PDS. Mais moi...
Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait constituer un front commun face à Macky Sall.
Francis, oui. Moi, je serai le candidat des wadistes.
Vous êtes le candidat des wadistes. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait constituer un front commun contre Macky Sall en 2019. Donc, vous voyez-vous, en fait, comme le porteur, je dirais, l'incarnation de ce front?
Mais je ne peux pas être l'incarnation. Moi, je suis un parti qui vient de naître. Il y a le PDS qui est le premier parti d'opposition.
Est-ce que Karim Wad pourrait incarner ce front, selon vous?
Mais je dis, ce sont les partis qui vont l'incarner, pas des personnes. Vous savez,
enfin, on vote pour une personne à une présidentielle.
Vous savez, il faut aussi se conformer aux réalités politiques. Il n'y a aucun dirigeant aujourd'hui sur l'espace politique sénégalais qui a la dimension d'Ablaye Wad. Ça, c'était naturel.
Alors, qui face à Macky Sall en 2019, alors?
Mais j'ajoute à la question de Francis, que répondez-vous justement à ceux qui estiment que l'opposition n'a plus de figure aujourd'hui et qu'elle manque de vrais leaders?
Mais c'est vrai, l'opposition n'a plus de leaders. C'est un leadership éclaté. Et parce qu'il y a un trou, un fossé béant qui a été laissé par Ablaye Wad.
Oui.
Lui, c'est un homme exceptionnel, il faut le reconnaître.
Oui.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est pour cela que nous leur proposons un pacte. Évidemment, il y aura quelqu'un qui va sortir, mais même quand il sortira du lot, il n'aura jamais la dimension de Wad. Ça, il faut l'accepter.
Oui.
Mais quand il sortira, il faut que les autres le soutiennent. Vous comprenez?
Oui.
C'est comme ça que marche l'histoire. On ne peut pas se dire que vous ne pouvez pas vous autoproclamer leader de l'opposition. Karim Wad ne peut pas le faire. Idriss Seck ne peut pas le faire. Moi-même, je ne peux pas le faire. Mais il arrivera au moment où, naturellement, les choses vont venir en fonction de la représentativité des uns et
mais
des autres.
Mais quand on est à un an de cette présidentielle à Bibsi, autant dire que, voilà, à vous écouter finalement aujourd'hui, hein, si on prend évidemment, si on se fie à ce que vous dites, le rapport de force présidentielle est mécaniquement donc en faveur de Macky Sall aujourd'hui.
Vous savez, je vais vous faire une confidence, enfin une révélation. Vous savez, en 2012... quand on a eu des sondages, Macky Sall était à 8%.
Oui.
Personne ne pensait à lui. Il était derrière les Moustapha Niass et Tanorien. Mais au final, c'est lui qui est sorti. Est-ce qu'il était le leader naturel de l'opposition à l'époque?
Oui.
Les contextes ont changé. Vous voyez, et moi, je crois plus d'ailleurs à ces leaders charismatiques à qui on donne un rôle de messie qu'on voit.
Bah, c'est vous qui manifestez à quelques instants une nostalgie de Maître Wad quand même. Cette nostalgie vous habite, hein, donc vous êtes encore...
Oui, je suis son élève, moi. Oui. C'est mon maître à penser. Mais sur l'espace politique sénégalais et africain même, il n'existe plus d'homme politique qu'on voit, il faut l'accepter.
Mais ça frise l'idolâtrie, là, la Bibsi, non?
Mais ce n'est pas l'idolâtrie, c'est comme si vous parlez de Marx, vous parlez de Engels et Lénine. C'est des gens qui ont produit des idées universelles, si on peut dire. Mais au niveau de l'Afrique, le libéralisme social africain, qui l'a théorisé, c'est Maître Wad. Qui l'a pratiqué, c'est Ablaye Wad. Qui l'a vécu, qui est arrivé au pouvoir avec cette doctrine, cette idéologie, c'est Ablaye Wad. Il est même patron au niveau de l'international libéral.
D'accord.
Moi, je suis un élève.
Voilà, on comprend très bien votre
attachement. Je prolonge sa pensée, tout simplement.
Voilà.
Avec d'autres, bien sûr, des idées qui me sont propres. Ça, je ne peux pas le contester.
Je souhaitais vous faire commenter tout à l'heure la démission du magistrat dont on parlait en début d'émission, mais je voudrais que vous répondiez très rapidement à cette question avant de parler du magistrat. Vous affirmez, vous avez affirmé tout au long de cette émission que la justice sénégalaise est manipulée, en citant par exemple les affaires Karim Wad et maintenant Khalifa Sall. Mais quelle est la preuve dont vous disposez aujourd'hui, dont dispose l'opposition et les soutiens de Khalifa Sall pour affirmer que le président de la République Macky Sall, que vous accusez d'instrumentaliser la justice, est impliqué dans ce dossier.
Madame, vous savez, c'est comme le phénomène de la corruption. C'est des perceptions, c'est des sentiments que nous avons. Et vous savez que c'est un problème d'influence. Vous ne pouvez pas avoir de preuves matérielles. Mais vous savez que par l'organisation de notre système de pouvoir, le président de la République étant le chef de l'exécutif, étant le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui décide même des fois de la nomination des magistrats, pas un droit de vie ou de mort, pas seulement l'expression, si le dossier de Khalifa Sall se présente comme tel et que Khalifa Sall ait manifesté une ambition présidentielle, on peut logiquement penser qu'il y a une influence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire.
Donc ce sont des affirmations tout à fait basées sur la subjectivité. Il n'y a aucun élément qui lie le président Macky Sall au dossier Khalifa Sall. Madame, et je rappelle, il n'a pas été condamné pour détournement de fonds publics, madame, mais pour faux en écriture.
Pourquoi on classe les États en liste de perception de la pauvreté? Ils vous donnent des preuves matérielles pour vous dire que tel individu a été corrompu? Non, c'est la perception. Et on sait très bien que le pouvoir exécutif a la possibilité, ici au Sénégal, d'influencer les décisions du pouvoir judiciaire. C'est vrai, il y a des magistrats qui sont indépendants, qui sauvegardent leur dignité, qui veulent sauvegarder leur dignité et la dignité de la justice, comme l'a fait récemment Ibrahim Adem. Le fait que lui-même ait démissionné en tant que magistrat et qu'il tienne des propos de cette nature devrait nous convaincre qu'il y a la main du pouvoir exécutif dans le
système. D'accord. Est-ce que vous irez jusqu'à dire, parce que si on suit votre raisonnement, on pourrait le penser, que le jugement qui a été prononcé contre Khalifa Sall relève d'une erreur judiciaire?
Vous savez.
Non, mais là, c'est clairement.
Il m'est très difficile d'ailleurs. Je ne voudrais pas commenter des décisions de justice parce que je suis un produit de l'administration.
Oui,
attendez, je vais vous dire. Parce que je suis un produit de l'administration. J'ai été formé à la même école que ces magistrats.
Oui, mais vos propos jettent un doute sur la décision de justice.
Je vais vous expliquer. On doute, n'est-ce pas?
Oui.
Que le droit ait été bien dit. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que la justice, c'est quoi aussi? À des moments donnés, il faut savoir faire évoluer le droit. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que les fonds dont on parle, c'est un instrument budgétaire au service d'une fin, à des fins politiques. Depuis Lamine Gueye jusqu'à présent, ça fait des années, c'était la même pratique. Mais on nous apprend en droit que la pratique, la coutume aussi est source de droit, quelque
part. Mais la faute commune ne crée pas non plus le droit.
Comment ?
Mais la faute commune ne crée pas non plus le droit.
Oui, mais il faut que le droit évolue. Vous comprenez ? Parler de cela, ce qu'il y a, c'est que des personnes, des autorités appartenant au pouvoir, des autorités qui ont appartenu à notre pouvoir, qui aujourd'hui ont émigré chez Macky Sall, ont commis des fautes pires et ne font l'objet d'aucune inquiétude.
D'accord.
C'est pour cela que nous considérons que c'est un procès politique.
D'accord.
Pas plus,
je voudrais vous faire réagir à la démission de Ibrahima Hamidou Dem, le magistrat. Il a annoncé tout de suite la mise en place d'un mouvement politique appelé Ensemble dans les prochaines semaines. Est-ce que l'entrée en politique du magistrat est-elle selon vous la meilleure réponse à ces critiques qu'il a formulées à l'endroit de la justice sénégalaise? Est-ce que c'est une meilleure façon de redresser cette justice en entrant en politique?
Je vais vous dire encore, je vais citer Ablaïad, vous allez encore parler. Il nous disait, si vous ne faites pas la politique, d'autres vont le faire à votre place.
Je pose la question parce que beaucoup de Sénégalais estiment que la scène politique est saturée, elle est touffue.
N'est jamais tout fut la scène politique. Ça, c'est raconté. Les gens, ils racontent des histoires. C'est comme vous la presse, n'est jamais tout fut. Vous êtes ici, il y a beaucoup de radios, de télévisions qui viennent s'installer. N'est-ce pas? C'est 15 millions de Sénégalais, c'est combien de millions d'Africains, combien de milliards d'individus, n'est-ce pas? C'est la même chose que la politique. C'est
mais
jamais
si à chaque
saturé.
Fois que quelqu'un Attendez. Critique l'action gouvernementale et crée son et parti crée politique, c'était ça la question de Liliane, en fait.
Exactement.
Ah, mais c'est la démocratie.
Ah oui.
C'est ça qui complique, semble-t-il, la stratégie de l'opposition. Avec la multitude de partis, l'opposition ne s'entendra jamais peut-être pour battre l'adversaire commun qu'est Macky Sall.
Vous savez, on est opposition et l'opposition, il faut qu'elle ait de l'intelligence nécessaire. Moi, par exemple, je ne suis pas satisfait de la stratégie de l'opposition actuellement. Je trouve qu'on devrait avoir une autre stratégie beaucoup plus efficace.
Par exemple ?
Je vous ai parlé tout à l'heure du pacte que tu leur as proposé. Et j'estime d'ailleurs qu'actuellement, compte tenu de la situation, l'opposition devrait s'arrêter un peu. Prendre une semaine, un long week-end, vendredi, samedi, dimanche, organiser les assises de l'opposition.
Les états généraux.
Les assises. Pour réfléchir sur une stratégie efficace et un plan d'action pour faire face à Macky Sall.
Merci.
Parce que j'ai l'impression que c'est un peu dispersé, on se réunit, chacun parle de son côté.
Et on continue à créer d'autres partis politiques.
Alors qu'il faut s'arrêter à un certain moment pour réfléchir et pouvoir avancer.
Merci Francis. Et vous permettez, Francis, on passe au prochain sujet.
Bien sûr.
Le débat Africa BBC.
Avec notre grand témoin, Habib Sy, président du parti Espoir et Modernité, PEM, c'est dit en français. Je vous laisse le dire en Wolof, monsieur le ministre.
Arouréoumi, ça va venir avec vous.
Ancien ministre d'État du Sénégal. Vous dites que vous êtes toujours maire de Linguère.
Ah, je ne le suis plus, j'ai perdu la mairie en 2012.
Ah oui, vous avez été longtemps, depuis 2002. Hein, vous avez été
j'ai fait deux mandats de maire, c'est largement suffisant d'ailleurs.
Bien sûr. Nous allons parler de la disparition de Winnie Mandela. Winnie Mandela, la grande dame de la lutte anti-apartheid, l'une des grandes figures des luttes de libération sur le continent africain, est décédée lundi dernier des suites d'une longue maladie, selon la formule consacrée. Elle avait 81 ans, même si sa personnalité reste indissociable de celle de Nelson Mandela. Elle aurait été la grande oubliée de l'Afrique du Sud post-apartheid. Depuis la fin des années 90 et surtout depuis son divorce d'avec Nelson Mandela en 1996. Le monde entier garde en mémoire l'image de la sortie de prison de Nelson Mandela en 1990, main dans la main avec son épouse Winnie. Une histoire d'amour qui sera sacrifiée sur l'autel des luttes politiques au sein de l'ANC et qui fera dire à l'écrivain Jean Guillouano, auteur d'une biographie de Mandela, que, je cite, « leur amour a été sans doute l'une des grandes victimes de l'apartheid ». Fin de citation. Habib Sy, quel souvenir gardez-vous, pourrait-on garder, je dirais, quel souvenir gardera l'histoire, quelle trace l'histoire dans l'histoire Winnie Mandela?
Et Francis, avant que notre invité ne réponde à votre question, on va
écouter un
élément sonore.
Ah,
à
Soweto,
quelques centaines de personnes se sont spontanément rassemblées devant la maison de Winnie Mandela dès l'annonce de sa mort. De hauts responsables de l'ANC ont défilé toute la soirée à son domicile, dont le président sud-africain, correspondance de Adrien Barbier de BBC Afrique, qui s'est rendu à Soweto.
Dès que la nouvelle de sa mort a été confirmée, quelques centaines de militants, de voisins et d'anonymes ont afflué devant l'ultime demeure de Winnie Mandela à Soweto. Dans cette rue mal éclairée du township historique de Johannesburg, les habitants ont souhaité rendre un dernier hommage à la mère de la nation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé dans la soirée et s'est adressé au pays depuis le portail de la maison.
Lorsque la nouvelle s'est répandue dans le pays, nous avons tous eu un grand chagrin. La mort de Winnie Matikizela Mandela est une grande perte. C'était l'une des femmes les plus fortes de notre lutte. Elle a immensément souffert sous le régime de l'apartheid. Elle a été emprisonnée. Elle a été très maltraitée. Elle a été séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple.
Malgré son âge avancé et la maladie, elle est récemment apparue en public pour s'inscrire sur la liste électorale. Bien loin des controverses que personne n'évoque, on se souvient ici de son courage, de sa fierté et de son intrépidité.
Dans les années 1980, c'était la seule combattante que nous connaissions avant que les autres ne reviennent d'exil. Lorsqu'on était arrêté, c'est elle qui venait au poste de police pour nous libérer.
Adrien Barbier, Johannesburg, BBC Afrique.
Alors, question à Habib Sy, quel souvenir gardera-t-on finalement de Winnie Mandela? Quelle trace laissera-t-elle dans l'histoire? Est-ce qu'on peut dire que l'histoire a été justement un peu, d'une certaine manière, injuste avec cette dame?
C'est comme si vous disiez que l'histoire est un tribunal, alors que pour moi, il n'en est pas un. On dit souvent, l'histoire jugera. L'histoire ne juge pas. Elle raconte, tout simplement, et on retient. Elle fut l'un des symboles de la femme africaine. Elle tire, à mon avis, son histoire, ses actes, de très loin. Parce que des fois, on ignore notre histoire. Saviez-vous que déjà au Xe siècle, dans le royaume d'Aougam, qui se trouvait auprès de Ganna, il y avait un royaume noir qui était dominé, qui faisait tribut au royaume d'Aoudegos, qui était dirigé par des Berbères. Et au jour, à l'occasion d'un conflit, le roi berbère a tué le roi d'Aougam. Et les femmes, devant la dépouille de leur roi, pour ne pas, elles aussi, être humiliées, se sont jetées dans les puits et se sont données la mort dans d'autres conditions pour symboliser la vertu et les valeurs de la femme africaine. C'est le même titre que les femmes d'Ndert qu'on rencontre ici au Sénégal. Quand on a voulu en faire des esclaves, elles ont décidé de se regrouper dans une case, mettre le feu et mourir plutôt que de subir l'humiliation.
La reine
Zanga, etc. Donc, Willy Mandela est de cette trempe. Il a marqué l'histoire récente de l'Afrique du Sud. Je dirais, pour paraphraser les Égyptiens, vous savez, en Égypte, ils disent qu'il y a trois piliers en Égypte. Les pyramides, et plutôt il y a le Coran, les pyramides et Oum Kolsom. L'histoire récente de l'Afrique du Sud, si je devais la résumer, je dirais il y a Nelson Mandela, Willy Mandela et l'arc-en-ciel. Donc, des femmes, des hommes, des personnes de cette nature qui ont des visions à long terme, des fois peuvent faire l'objet d'incompréhension.
C'est ça.
Ça lui est
et
arrivé.
Et vous pensez que c'était le cas de Winnie?
Ça lui est arrivé quelque part, mais je crois que c'est une icône à laquelle on ne devrait pas toucher.
Est-ce qu'elle n'a pas été sacrifiée quand même, je dirais, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, sur l'autel de ces luttes de tendance au sein de l'ANC, entre, on disait, voilà, une frange de l'extrême gauche du parti, et puis une autre beaucoup plus modérée, dont faisait partie d'ailleurs Nelson Mandela. Parce que, bon, ce qui les a quand même opposés, ça a été et la manière dont Nelson Mandela a négocié, je dirais, la fin de l'apartheid avec les acteurs de l'ancien régime. Elle était plutôt, je dirais, elle était... disons
Frédéric Desclerc notamment, oui.
Voilà, c'est-à-dire elle était plutôt, je dirais, pour des solutions beaucoup plus radicales, moins conciliantes en tout cas, à l'égard de l'ancien système.
C'est le lot des grands hommes. C'est ce qui est arrivé à Cheikh Anta Diop, un exemple, qui est vraiment une icône, qui a apporté énormément à l'Afrique, mais qui a été ignoré presque durant toute son existence au Sénégal, en Afrique. C'est maintenant qu'on se rend compte.
Sous Senghor, notamment.
Abdou Diouf a essayé de le réhabiliter, bon, c'était un peu trop tard, etc. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, dans tout le milieu noir américain, ils vous disent des choses que vous-même, Sénégalais, vous ne saviez pas sur Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? C'est le lot des grands hommes, c'est ce qui est arrivé à Willy Mandela. Mais vous savez, maintenant, avec sa mort, les gens se rendent compte.
Mais je pense que c'est pas facile de aussi savoir. Est-ce que l'ANC n'a pas contribué à cet état de choses? Le traitement qu'on lui a réservé au sein de l'ANC, est-ce que...
Oui, mais vous savez, c'est la politique.
C'est comme si on a refusé de lui donner une place qu'elle méritait réellement.
Bon, il s'est passé énormément de choses, mais moi, bon, étant un homme politique, je comprends. Vous savez, les luttes politiques...
Est-ce que ce n'est pas plus facile, je dirais, dans un monde politique dominé par des hommes, de sacrifier plus facilement, je dirais, une femme que si ça avait été un homme? C'est ça, quand on parle de lutte idéologique au sein d'un parti.
Vous savez, c'est parce qu'on ignore notre histoire. Vous allez dans l'Empire du Mali. Le roi partageait le pouvoir avec sa sœur. Parce qu'on avait senti et compris qu'il fallait que les femmes participent à l'exercice du pouvoir parce que Dieu leur a doté de certaines capacités dont nous n'avons pas les possibilités. Willy Mandela l'a prouvé. Mais les circonstances dans lesquelles elle a évolué au niveau de l'ANC, les luttes fratricides, etc., parce que c'est ça aussi la politique, c'est fait des fois par des luttes d'élimination, parce qu'on n'a pas les mêmes orientations, la même conception, la même compréhension du déroulement des événements. Il est logique.
Elle a été peut-être, selon vous, ostracisée. Elle
peut être victime. Elle peut être victime. Bon, il faudra, c'est de bonne guerre qu'elle soit liquidée de cette nature. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, à mon avis, ce n'est plus ça. Ce qui est le plus important, c'est cette reconnaissance mondiale qui lui est faite.
Quelle est la responsabilité de son ancien époux, Nelson Mandela, dans ce qui lui arrive? On a parlé tout à l'heure du rôle de l'ANC. Quel est celui de Nelson Mandela? Parce qu'à sa mort, il ne lui a rien légué. Est-ce que cela participait aussi de cette volonté de l'appareil politique qu'était l'ANC à mettre à l'écart Winnie Mandela, peut-être?
Bon, je crois qu'il y avait aussi des problèmes privés. Des problèmes d'ordre privé qui existaient entre eux, dont on peut parler comme ça,
oui,
etc.
Bon,
mais vous en savez quelque chose, peut-être, au regard des responsabilités que vous avez occupées? Directeur du cabinet du président Watt pendant 10 ans, peut-être vous savez des choses.
Le secret des alcôves, peut-être.
Oui.
Comme les journalistes sont mieux informés que nous.
Ça, c'est... Voilà, on va peut-être... Je vais donc vous poser cette question.
En tout cas, je lui rends hommage, comme toute l'Afrique, et souhaiter qu'elle soit une référence pour les femmes africaines, pour les femmes du monde, d'ailleurs.
Pensez-vous que l'ANC peut se racheter pendant ses obsèques? Est-ce qu'il peut aujourd'hui rétablir une certaine justice à Winnie Mandela?
Elle a commencé à le faire. L'ANC le fera. L'Afrique du Sud le fera. Le monde entier le fera. Et inévitablement, parce que Winnie Mandela va s'imposer à l'histoire de l'Afrique du Sud, à l'histoire de l'Afrique. Personne n'y peut absolument rien. Comme on dit, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Elle a joué ce rôle historique que personne d'autre n'a joué dans cette histoire récente de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, mais on fait des obsèques quand même de dimension nationale, c'est pas donné à n'importe qui.
Dommage national.
Là, il n'est pas certain que les autres qui mourront après lui auront ces mêmes honneurs.
Mais on a aussi beaucoup parlé à Bipsi de l'affaire du meurtre du jeune Stompy qui était âgé de 14 ans. Un témoin a affirmé que le jeune a été tué par Winnie Mandela. Et dans le témoignage, on la décrivait comme une femme de domination, une dominatrice, une femme sans pitié. Est-ce que vous pensez que cette description correspond à l'image que vous avez d'elle, même si finalement elle a été condamnée, mais pas, elle n'a pas fait de prison pour cette affaire?
C'est l'histoire racontée par les hommes qui étaient contre elle. Les hommes, ça veut dire que c'est ça l'histoire aussi. Hein? L'histoire est subjective. Vous comprenez? Je ne crois pas qu'elle ait été cette nature qu'on a voulu lui coller. Je ne le pense pas. Alors, mais c'est la vie politique, surtout dans une situation d'Afrique du Sud, de troubles, etc., où il y avait beaucoup de violence.
Merci.
Moi, je n'y crois pas du tout. C'est l'histoire racontée par les hommes, n'est-ce pas? Il faut maintenant chercher la vraie histoire et la raconter. Parce qu'entre l'histoire et la vraie histoire, il y a une différence.
Merci beaucoup.
Francis, on passe sans transition. C'est vous qui aimez le mot. La Guinée, voilà. Parmi les sujets au menu des entretiens lundi entre le président guinéen Alpha Condé et le leader de l'opposition Seydou d'Alène Diallo, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante ou encore l'audit du fichier électoral. Selon Seydou d'Alène Diallo, ils ont aussi parlé du contentieux post-électoral relatif aux dernières locales. L'opposition accuse le pouvoir et la CENI de fraude et, je cite, du vol de leur suffrage. Ils ont convenu de privilégier le dialogue et la concertation pour régler ces contentieux. Monsieur Habib, si une partie de Guinéens s'est montrée très sévère à l'égard des deux leaders qui se sont donc rencontrés en les accusant de se payer en quelque sorte la tête des populations, en allumant les braises quand ils le veulent et de les éteindre aussi quand ils le décident. Est-ce que vous partagez ce sentiment que certains Guinéens ont eu après la rencontre entre Seydou d'Alène Diallo et le président guinéen?
Mon maître à penser, Abdoulaye Wade, m'a appris qu'en politique, il ne faut pas toujours faire et dire ce que veut le peuple. Quand vous dirigez un peuple, vous devez avoir une vision plus lointaine que celle du peuple. Et des fois, vous prenez des décisions que le peuple ne comprend pas, même si c'est dans son intérêt. Et je crois que cette démarche des deux leaders est dans l'intérêt des Guinéens et de l'Afrique. Je les connais. Je les ai fréquentés ici. Je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour rappeler respectueusement au président Alpha Condé, qui disait au président Ouad, « Président Ouad, quand j'accéderai au pouvoir, 5 ans, 10 ans, je vais vous dépasser. C'est ce que dit tout simplement animé de la volonté de faire et de faire évoluer la Guinée. J'ai participé de façon peut-être même inconnue à l'exfiltration de Sélou d'Alain Diawelo pendant les événements qui sont passés au stade du 28 septembre. D'ailleurs, je raconterai tout ça dans un livre. Je connais Sidia, j'ai fréquenté ici. Ce sont des patriotes.
L'ancien Premier ministre.
Oui, je les connais.
Sidia Touré.
C'est des patriotes. Et la Guinée a besoin d'accalmie. La Guinée a besoin de paix. La Guinée a besoin de sérénité. La Guinée a besoin de s'installer dans la démocratie.
Mais est-ce que c'est normal que deux leaders comme ça décident quand ils veulent de faire la paix ou de faire la guerre?
Ce sont les événements qui leur imposent. Sans que peut-être l'opinion ne comprenne. C'est comme le cas d'Abdou Diouf et d'Ablaïwad à l'époque. N'est-ce pas? Ils se battaient sur le terrain politique. On nous mettait en prison. Moi, j'étais en prison pour des raisons politiques. Hein? Et après, on sort, on discute, on négocie, on dialogue, on entre dans le gouvernement, on sort, etc.
Depuis 2011 en Guinée, parce qu'il y a, il y a quand même un coût humain. Il ne s'agit pas simplement d'une joute entre deux acteurs politiques. Depuis 2011, il y a des dizaines de blessés, des dizaines de morts. C'est un scénario
qui se répète
à chaque fois. Alors, depuis février dernier, c'était évidemment le même scénario. Manifestation, des morts et des blessés. Et puis, au bout de ces journées de braise, on voit deux acteurs, deux leaders politiques qui se serrent la main et qui procèdent à un rituel de réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas là une instrumentalisation du peuple pour des desseins personnels?
Qu'est-ce que vous voulez? Qui s'amène la guerre?
Mais non, mais la guerre est déjà là, d'une certaine manière, puisqu'il y a déjà un coup humain.
Attendez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait la guerre civile? Qu'on continue à compter les morts?
On peut évidemment, je veux dire, avoir un combat politique sans pour autant jeter systématiquement en pâture des individus.
Les Guinéens,
maintenant, pour que ce combat politique soit sain, serein et que se fasse dans les règles de l'art, ils sont obligés de se parler.
Oui, d'accord. Qui se parle, c'est une chose. Voilà. Sauf qu'avant de se parler, il y a avant, à chaque fois, ce même scénario de manifestation, des forces de l'ordre qui répriment, il y a des blessés, il y a des morts. Et puis tout d'un coup, on voit ce rituel de réconciliation. Et jusqu'à c'est pas la première fois que cela se produit, ce scénario.
Et là encore, on parle de suspension de manifestation et non d'abandon de manifestation. Donc, cela pourrait reprendre.
Écoutez, le fait qu'ils se parlent, à mon avis, ne veut pas dire que la justice ne doit pas être rendue.
Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Hein.
Oui, il faut que la justice soit rendue. Mais nous, ici, moi, je ne peux pas être au Sénégal et faire le reproche au président Macky Sall de ne pas parler à l'opposition et faire ce reproche au président Alpha Condé. Quelles que soient les circonstances, comme on dit, toutes les guerres se terminent autour de la table de négociation. Ce qui se passe en Guinée n'est pas pire ce qui s'est passé pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Nous regrettons qu'il y ait des morts d'hommes. Nous regrettons... C'est dommage parce que, vu les potentialités de la Guinée, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, qui a la possibilité de dépasser tous les pays, au moins d'Afrique de l'Ouest, en 10 ans, qu'on se mette toujours dans un cycle de violence, alors que c'est le peuple qui en pâtit. Eux, ils exercent le pouvoir, après ils s'en vont.
Oui.
Il faudrait que maintenant, quand les circonstances l'exigent, que les hommes politiques puissent s'asseoir, se parler, mais cela ne veut pas dire qu'il faut occulter le fait que la justice doit être rendue. Mmh. Ceux qui sont coupables de crimes, n'est-ce pas, de tueries, de délits, etc., doivent être punis.
Merci.
Mais pour que cela puisse se produire, il faut qu'il y ait un bon système démocratique. Mais quand les partis de l'opposition et le pouvoir sont toujours à coups de tirer, à chaque fois ils sont en guerre, les gens ils se tuent entre eux, personne n'intervient d'ailleurs. Mais finalement, il n'y a que les Guinéens qui vont en pâtir et on n'en a pas besoin.
Il y avait déjà eu un accord en 2016 entre pouvoir et opposition après la rencontre entre les deux hommes.
Mais vous savez, l'expérience sert toujours à quelque chose.
Qui n'a pas été appliquée.
Oui, mais tout ça c'est une expérience. Ils ont échoué peut-être la première fois, la deuxième fois, souhaitons que la troisième fois sera la bonne.
Merci.
Dans l'intérêt du peuple guinéen.
Merci beaucoup.
Nous vous invitons à Bipsi à écouter à présent avec nous les messages de nos auditeurs sur Internet, recueillis et livrés par Richard Boué, tout de suite.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Sénégal, Pancras Lovou pense que la condamnation du député Khalifa Sall démontre à suffisance qu'en Afrique, le pouvoir exécutif a une emprise totale sur le judiciaire. Kwame Kwame Junior, de son côté, s'interroge sur les sentences rendues par les juridictions africaines. Selon lui, elle tranche toujours en faveur du régime en place. Et Charles Bazema estime pour sa part que sur le continent, dès l'instant où un candidat se démarque de la majorité présidentielle, une procédure judiciaire est ouverte à l'endroit du nouveau challenger. Sur l'Afrique du Sud, Mephis Kiti dithyrambique sur le sujet estime que le décès de Winnie Mandela est une perte non seulement pour les Sud-Africains, mais aussi pour l'African National Congress, l'ANC. Pour notre auditeur de Cotonou, Winnie Mandela est l'image de cette femme battante qui a su lutter pour la fin de l'apartheid aux côtés de son époux Nelson Mandela. Et enfin, sur la Guinée, Olivier Mariki se demande pourquoi est-ce que les opposants, une fois arrivés au pouvoir, deviennent des dictateurs. Et quant à Diarra Kamnoumé, il exhorte tout simplement l'opposant Sélo Dalein Diallo à respecter le président Alpha Condé pour un retour à la paix dans le pays. Merci à Lucas Derossi et à Jordan Fameux qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Richard. Une conclusion, c'est un peu la coutume dans cette émission à BBC. Une conclusion générale en quelques secondes, s'il vous plaît.
Je voudrais conclure pour dire que bon, il faut que l'Afrique se résiste et reste un continent debout. Winnie Mandela n'a pas fait moins que Jeanne d'Arc. Elle est devenue universelle. Il faut que nous sachions ce que nous représentons, nous, Africains. Et il faut que les Africains se lèvent dans l'unité pour la dignité de leur continent, au lieu de se laisser toujours exploité par des pays et des forces étrangères. L'Afrique a les possibilités d'être l'un des continents les plus développés. Mais c'est dommage que ceux qui nous dirigent, ils en parlent, mais jamais la volonté n'est concrétisée. Merci. Je lance un appel à la jeunesse africaine, à tous les jeunes d'Afrique, pour que la pression soit mise sur les chefs d'État pour que l'unité du continent se réalise, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-là.
Merci à BBC, merci beaucoup. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. BBC, président du parti Espoir et Modernité, PEM, ancien ministre d'État du Sénégal. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée, supervisée plutôt à Paris par François Richard et notre stagiaire, et chargé de production Sandra Bassabam et Richard Thierry Mboué-Kidina. Mais cette semaine, c'était plutôt essentiellement Sandra Bassabam, d'ailleurs. N'est-ce pas, Liliane?
Oui, je confirme, Francis Laloukou.
Bon week-end à vous. Bon week-end
Merci,
à toutes et à tous.
Ça a été un plaisir.
Le plaisir était
partagé. Tout à fait.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir à tous. Bon week-end.